I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis accompagné de mon ami Julien Charpentier. Salut Julien.
Salut Stéphane, bonjour à tous.
Pour parler d'un film qui te tient à cœur aujourd'hui, que tu aimes
absolument
beaucoup.
Oui.
On a reporté plusieurs fois. On en parlait, on disait tiens, est-ce qu'on le traite, est-ce qu'on le traite pas. Puis en fait, on est tombé d'accord parce que trêve de Steven Seagal, trêve de Dwight Little. Parce que mine de rien, Dwight Little, on l'a pas dit la dernière fois, mais il est parti faire Free Willy après, c'est-à-dire que sauver Willy. Donc bon. C'est un peu moins stéroïde. C'est un peu moins stéroïde que le film dont on va parler maintenant, même si on est plus dans le thriller, en l'occurrence ici. On va parler de Wind River. Premier, c'est discutable, premier film de Taylor Sheridan, le scénariste de Comanche Area, de Sicario 1 et 2, et puis surtout showrunner maintenant de Yellowstone, et de Tulsa King avec Sylvester Stallone. Bon, on est quand même dans le sujet. Wind River, sorti en 2017. Est-ce que tu peux nous pitcher le film, monsieur Charpentier ?
Alors, Wind River, c'est l'histoire d'un chasseur qui travaille pour... le service en gros là, de chasse et pêche et tradition américaine quoi, en gros,
et pour le wildlife preservation wildlife.
En fait lui son travail c'est de contrôler les mouvements des loups, des prédateurs dans la vallée, et il va les tuer quand il y en a trop. Et un jour, il finit par découvrir une jeune femme d'une toute petite vingtaine d'années, voire dans la fin de la dizaine, morte. Et elle est morte d'une façon assez étrange, puisque elle est pieds nus, alors que ça se passe en plein hiver, et donc qu'elle a visiblement couru dans la neige. Et on s'aperçoit assez vite que cette jeune femme, en fait, est morte à cause du froid et qu'elle a ses poumons explosés. Elle est morte comme ça. Et la question qui se pose, c'est mais pourquoi elle a couru pieds nus dans la neige ? Et pour pouvoir répondre à cette question, en fait, il y a un agent du FBI qui vient, une agente pour être exact, qui est jouée par Elisabeth Olsen, qui arrive non pas résoudre l'enquête, mais simplement pour voir si c'est un meurtre et donc si elle peut donner ça à ses collègues, parce que c'était l'agent du FBI le plus proche de Wind River, puisque Wind River, c'est une réserve indienne américaine qui existe vraiment, qui est dans le Wyoming. Et en tant qu'agent le plus proche, elle était à Las Vegas, soit globalement à peu près 1500 km. C'est vous dire à quel point les réserves amérindiennes intéressent beaucoup le gouvernement américain.
Et puis c'est des espèces de zones no man's land, en fait. C'est un petit peu comme ça que le film les présente. Voilà, parce que c'est l'idée du film, en fait, chez Taylor Sheridan. Enfin, quand il a travaillé sur le film, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a appris. Il voulait, en fait, parce que c'est toujours très documenté chez Sheridan, hein, il y a toujours une volonté, en fait, d'inscrire ça dans un milieu connu et de traiter ce milieu-là, que ce soit dans Sicario, que ce soit là. Et en gros, l'idée, c'est qu'apparemment, il avait demandé, en fait, à des gens de vérifier les statistiques, en fait, justement, sur les personnes disparues, sur ce genre de choses, etc., etc. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de statistiques.
Il y en a sur absolument tout le monde, il y en a sur différentes ethnies, sur différentes démographies, sur les femmes de 20 à 30 ans, sur les femmes de 30 à 35, sur les femmes blanches, sur les femmes eurasiennes, mais là où il n'y a pas du tout de statistiques, c'est sur les femmes amérindiennes, comme si elles n'existaient pas.
Voilà, et du coup, en fait, en gros, ça donne un peu le ton aussi dans la façon dont lui, il gère, en fait, entre guillemets, l'ultime frontière, parce que c'est toujours un western, hein, comme toujours chez lui, quoi, l'ultime frontière autour de lieu où ça se passe, en fait. C'est-à-dire le côté no man's land, le côté voilà, en fait, la thématique de mon film, à travers, en fait, le sujet que je traite, qui est un sujet finalement assez simple, hein. Ça pourrait être un western, ce film, ça pourrait être un film policier, ça pourrait être n'importe quoi. Là, il se trouve qu'en fait, ça a une résonance parce que ça se passe là-bas, quoi, ça se passe dans cette réserve amérindienne, quoi. Alors, pourquoi ce film te tient énormément à cœur ?
En fait, c'est assez simple. C'est essentiellement à cause de son réalisateur scénariste, donc Taylor Sheridan. T'es très rapidement passé sur qui il est. Je vais y revenir.
Évidemment, c'était pour présenter, mais je t'en prie.
Je vais y revenir un peu plus. Taylor
Sheridan. Je compte sur toi.
On va dire que globalement, dans les années 2010, l'apparition de nouveaux auteurs, Il n'y en a pas eu beaucoup. C'était des années compliquées pour le cinéma américain. On n'a pas eu beaucoup de gens qui ont émergé. Pour moi, c'est une voix qui a émergé. En fait, à la base, c'est un acteur. Il n'est pas très grand, hein, mais alors par contre, il a soulevé de la fonte, le monsieur. Et c'est un Texan. Né, alors, sur IMDb ou sur Wikipédia, il n'a pas la même date de naissance. Donc, il est né soit en 69, soit en 70. Vous choisissez celui que vous voulez.
Bon, c'est proche, ceci dit.
Voilà, mais on va dire qu'il est né en 69. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à plus faire confiance à une IMDb qu'à Wikipédia. Peut-être que j'ai tort. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'était un acteur. Et ce n'était qu'un acteur. Et arrivé à 40 ans, donc en 2009, c'était vraiment un acteur de seconde zone qui n'avait jamais eu ni de rôle dans des films, ni de rôle récurrent. C'est-à-dire qu'il avait fait un épisode des Experts, un épisode de NYPD Blue, c'était un épisode de ci, de là. Donc c'était un gars qui galérait comme pas permis. Et en 2009, ici, un peu avant, en 2007 donc, ça doit être, il a signé pour Sons of Anarchy, dans lequel il joue le rôle de l'adjoint au shérif. C'était son premier rôle réputé. C'est son premier rôle où enfin ça marchait. Et pourtant, étrangement, alors que globalement il commençait à arriver, ce mec-là s'est dit « mais en fait, je suis absolument pas heureux, ça m'intéresse pas ce que je fais. Ça m'intéresse pas du tout », donc il a décidé de démissionner. Ils ont mis en scène son retrait de la série d'une façon que, si vous regardez Sons of Anarchy, un jour vous verrez. Et puis, il s'est retrouvé donc de 2009 à 2015, plus personne n'a entendu parler de Taylor Sheridan. Ce type-là avait disparu. Le seul truc qu'il a fait à ce moment-là, effectivement, c'est qu'il a commencé à écrire pour lui. Parce que ce qui l'intéressait, c'était de devenir scénariste, voire cinéaste. Sur ces entrefaits, il y a un homme, un de ses potes, dont j'ai oublié le nom, Eric quelque chose, qui a écrit un scénario qui a trouvé 20 000 dollars, une somme gigantesque, pour réaliser le film, et qui se dit « je vais en être l'acteur principal, le producteur, le scénariste et le réalisateur ». Et puis, quelques jours avant le tournage, j'ai fait « je vais peut-être pas faire tout ça, en fait, parce que j'en ai pas les moyens ». Donc il a appelé son pote Taylor et lui a dit « est-ce que tu peux réaliser le film ?» Et Taylor, il lui a dit « est-ce que tu peux me donner le scénario ?» Il a lu le scénario, il a fait mais fais pas ça, c'est nul ». Et son pote Eric lui a dit « écoute, je veux vraiment le faire ». Donc il a fait « ok, tu sais quoi, je viens, je tourne les plans que tu veux que je tourne. Je fais ça. Je ne m'investis pas dans ce film ».
Ce
film s'appelle Vile. A priori, c'est une catastrophe. Taylor Sheridan n'a jamais regardé le résultat. Il a rendu service à un pote. Donc il a dit à longueur d'interview « c'est pas mon film, j'ai rendu service à un copain. Je le renie pas, je l'ai fait. J'ai appris plein de choses dessus, mais je le renie pas ». L'homme continue, donc Taylor Sheridan reprend son chemin et donc il finit par écrire trois scripts. Trois scripts qui sont du coup des specs, hein, parce que donc je vous rappelle, hein, ce qu'on écrit des specs, c'est des scénarios qui n'ont pas été commandés. Ce sont des scénarios qu'on écrit pour soi en espérant pouvoir les vendre derrière. Donc exactement ce que Hollywood en ce moment n'aime pas du tout. À partir du moment où tu fais un spec, forcément ton budget il va être petit. Et en fait, il cherche à vendre ces scénarios-là et il réussit à vendre les trois très rapidement. Il réussit à vendre d'affilée Sicario, Comancheria et Wind River est en cours d'écriture à ce moment-là, et il se dit « ok, en fait, pourquoi j'ai écrit ces trois scénarios-là ? Je les ai écrits parce que c'est ce que j'appelle moi, d'ailleurs tu as utilisé le mot, c'est ce que j'appelle moi ma trilogie de la frontière américaine moderne. » Donc ce qu'on appelle la frontière, non pas au sens de séparation d'un pays,
non, bien sûr,
mais bel et bien au sens de séparation entre ce qui est civilisé, ce qui est sauvage, là où il y a une présence humaine et là où il n'y en a plus. C'est ça qu'on appelle la frontière en termes américains, on va dire. Et ces trois films, donc effectivement, ce sont Sicario qui lui traitait globalement de la violence de la frontière américaine. Ensuite, il a fait Comancheria, petite anecdote rigolote, hein, donc le film s'appelle Hell or High Water en VO, mais le titre original du script, c'était Comancheria. Donc la traduction française en fait est revenue au titre qu'il voulait.
Ça devait savoir à mon avis, donc en fait c'est pour ça que c'est ça. C'est repris. Ouais.
Voilà, c'est pour ça, c'est que juste les exécutifs ont dit ouais mais Comancheria, ça sonne indien quoi, ça va intéresser personne ton film, il faut qu'on le renomme. Donc il a accepté de le renommer Hell or High Water, mais sinon effectivement lui son script s'appelait Comancheria, qui lui effectivement traitait, il se posait la question de la différence à la frontière, donc là pour le coup la frontière plus texane, mais donc dans ces contrées un peu abandonnées du monde, hein, de la différence des écarts de richesse, c'est-à-dire que c'est un peu comme en France où à chaque fois que tu vois un professeur dans un film français, il vit dans un 150 mètres carrés à Paris, quand tu sais qu'un 150 mètres carrés à Paris, t'en as à peu près pour 5000 euros de loyer, tu fais ouais bien sûr avec un salaire de prof. Là, c'est un peu la même. Il va montrer des gens qu'on voit jamais. Et du coup, pour lui, Wind River, c'était le film de la catharsis ou le film de la façon de penser ses plaies. Puisque autant Sicario est un polar pur et dur, matinée d'un film d'action, autant Comancheria est un polar pur et dur, matinée d'un film d'action, autant Wind River, je trouve, reste un polar, reste un thriller. Il y a une scène d'action dedans, mais c'est presque un drame et il y a un... Le ton du film, l'ambiance qui s'en dégage est quand même une ambiance relativement désespérée.
Avec une scène d'action.
Avec une scène d'action. Une
grosse scène d'action dont on va parler plus tard, mais en tout cas qui se pose là, qui est quand même un peu importante aussi dans le déroulement du récit, dans certaines notions en fait de qualité d'écriture que Taylor Sheridan peut avoir, en fait, qui sont assez intéressantes et tout. Parce que je te rejoins là-dessus, c'est effectivement une voix en fait, qui est née et qui est reconnaissable et qui marche d'ailleurs, parce que Yellowstone par exemple c'est un très gros succès, hein, la série avec Kevin Costner.
Oui, c'est, en fait aux États-Unis il a une réputation, vous savez les États-Unis aiment beaucoup les statistiques, donc il n'y a qu'à regarder un match de sport américain pour s'en rendre compte, et donc ils aiment bien mettre les gens dans des cases, et lui il est considéré comme plus un showrunner qu'un cinéaste conservateur. On dit, bon, en fait, si tu regardes du Taylor Sheridan, globalement, c'est que t'es un Texan et que tu kiffes les flingues. Je caricature un peu, hein, mais globalement, c'est un peu la réputation que ce type-là se traîne, parce qu'effectivement, il parle d'une autre Amérique. Et moi, je trouve ça fascinant.
Et c'est surtout qu'il a émergé à peu près avec la montée
De Trump
et tout ça, etc., etc. Donc en fait, les associations sont rapides pour ce genre de trucs, mais c'est pas...
Et elles sont pas, entre guillemets, elles sont pas totalement injustifiées, c'est-à-dire que les gens qui vont voter Trump sont plutôt des gens du centre. C'est quelqu'un du centre, mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas son bord politique. Enfin, c'est comme quand je regarde toute proportion gardée, ne te vexe pas, mais c'est comme quand je regarde un Clint, le fait qu'il soit républicain, je m'en fous. Ce qui m'intéresse,
De toute façon, Clint est républicain, enfin, il est républicain techniquement, apparemment il est libertarien, quoi, Clint. Mais le truc, c'est que en fait, la distinction, moi, là où la question se pose en fait avec Taylor Sheridan, c'est que il y a lui et il y a les gens qui font les films derrière. C'est-à-dire là je vais pas parler, on va juste faire un tout petit truc avant qu'on reprenne sur Wind River. Mais par exemple, c'est Denis Villeneuve en fait sur Sicario. Alors moi, personnellement, Sicario, c'est un film que j'exècre, quoi. C'est mais vraiment pas l'idée initiale, pas le scénar, pas tout ça, etc. Même si je trouve qu'il y a des problématiques, c'est vraiment la façon de faire le film, quoi, et la façon de se dédouaner un petit peu en fait de tout ce que ça traite, quoi. Et notamment, justement, il y a un côté très libéral en fait dans Sicario, que ou dans Sicario 2 par exemple, Solima, il ne se pose pas du tout la question, quoi. C'est-à-dire que lui, il fait un western et il fait un film politique, ça, il y a pas de souci, quoi. Mais en fait, il prend pas des pincettes en fait, comme avec l'usage de ce personnage, que le personnage d'Emily Blunt, quoi. Moi, je trouve assez catastrophique en fait. Et puis, Comancheria, c'était un film qui se posait aussi la question en fait, encore une fois, en fait, de des Mexicains, de ce genre de choses, etc., etc. Donc, du coup, moi, je trouve ça étonnant qu'il soit classé, et surtout, il fait une série avec Kevin Costner, encore une fois, qui est pas vraiment qui est un démocrate à la base. Je trouve ça étonnant, en fait, qu'il ait cette aura-là, quoi. Mais bon,
il a quand même une aura, malheureusement, c'est un peu synonyme, mais il a une aura de conservateur, pas de républicain, de conservateur. Et l'aura de conservateur, quand tu fais des films qui traitent énormément, il a des thèmes récurrents, c'est ce qui en fait le savoir.
Oui, bien sûr.
Et donc, dans ces thèmes récurrents, il y a notamment la notion de territoire, la notion de propriété, la notion du droit à la dignité. Et moi, il y a un truc que j'adore chez lui et qu'il traite sans arrêt dans sa série phare qui est Yellowstone, qui est la différence entre la loi et la justice. C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnages dans ces films, la loi, ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est la justice.
Là, si on avance dans Wind River, c'est la même chose.
Oui, c'est le cas.
Oui, c'est la même chose. Alors, moi, j'avais pas vu Wind River, donc je l'ai vu pour le podcast, quoi. Film très intéressant. Alors, je trouve plus sur le papier, vraiment, qu'en termes de mise en scène. Je trouve que c'est... Alors, si je dois vraiment donner mes 2 centimes, en fait, sur le truc, je dirais que, en fait, c'est de la mise en scène assez fonctionnelle jusqu'à au moment où on a vraiment besoin de mise en scène. Et là, il y a 2-3 trucs qui se perdent, à mon sens. Mais on va en parler le moment venu. Toutefois, ça ne dévalue pas, je pense, ce qu'il a raconté, contrairement à, mon sens, Sicario. Voilà. Donc, c'est vraiment, je fais le distinguo et Taylor Sheridan est mieux servi par lui-même qu'il n'est servi par Denis Villeneuve, j'ai envie de dire, sur ce film-là, quoi. J'ai pas vu son film d'après.
Ceux qui veulent ma mort, Those Wish Me Dead,
qui est un film qui était sorti sur HBO Max directement à l'époque en fait, en plein Covid, quoi.
Chez nous directement, en fait, il est disponible sur Canal, dans l'offre Canal Plus.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, et toi, tu l'as vu, je l'ai pas vu non plus. Voilà. Et donc ça, c'est son deuxième film en tant que réalisateur officiellement. Donc voilà. Donc, revenons sur Wind River, donc un film vraiment méritant, qui effectivement en fait, moi je trouve. Alors transmet une aura mortifère en fait, c'est-à-dire que en gros il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui Taylor Sheridan en fait joue avec ses effets, c'est-à-dire c'est pas des scénarios complexes, Mais par contre, en fait, il va distiller les bonnes informations au bon moment. C'est-à-dire que, par exemple, l'enjeu du personnage de Jeremy Renner, en fait, pour enquêter sur ce personnage, c'est qu'il connaît cette jeune fille qui est morte,
Nathalie.
Il la connaît, mais on ne sait pas exactement à quoi c'est lié, jusqu'à vraiment, en fait, une scène à la fin, en fait, qui dévoile le truc, quoi. Et avant d'arriver, même si tant est qu'on n'a pas forcément besoin de spoiler ça, mais en fait, avant d'arriver là, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que c'est un personnage qui, en fait, lui-même brisé par la mort de sa fille. En fait,
C'est pareil, ça aussi.
Est mort plus ou moins dans des circonstances similaires, quoi, mais dont on ne sait pas vraiment.
Comme tu l'as dit, c'est distillé de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une scène d'introduction où on va te dire voilà le personnage de.
Voilà son trauma.
Voilà le personnage de Corey, voilà son trauma, etc. On va dire voilà le personnage de Corey, c'est un chasseur. Il découvre le cadavre, il rentre chez lui, il va voir. Tu rencontres après, peu de temps après, son ex-femme parce qu'il récupère son enfant. Il lui dit attention, il va y avoir une tempête, mais tu passes pas par cette ville-là. Et sa femme lui répond un énigmatique, mais plus jamais de ma vie, j'irai dans ce moment-là. Plus jamais. Et en fait, on va construire petit à petit. Qui est ce personnage et pourquoi il accepte alors qu'il c'est vraiment un chasseur, c'est pas un enquêteur, c'est pas un, il appartient pas aux forces de l'ordre.
Et à la fin, c'est la même chose avec Elisabeth Olsen par exemple. Alors c'est un personnage moins habité, on va dire, mais qui fonctionne aussi parce que en gros quand elle arrive sur place, bah en fait ils comprennent qu'elle est complètement c'est ce qu'on appelle le fish out of water, quoi, c'est-à-dire que vraiment c'est le poisson hors de l'eau. C'est cette expression pour dire voilà, c'est elle est hors de son élément. Parce qu'elle arrive en fait en tailleur et en gros les mecs lui disent mais il fait moins 15 là, tu vas pas tenir en fait, donc il faut vraiment qu'on t'habille avant que tu partes en fait vérifier le cadavre en question, quoi. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça en fait qui sont effectivement très bien distillés, qui prend son temps, c'est-à-dire que c'est un film qui prend son temps aussi par rapport à ça, et qui du coup je trouve incarne, c'est-à-dire la narration, c'est au sens t'es perdu en fait dans cette espèce de désert, tu vois, de neige en fait, avec les personnages, et tu comprends en fait ce que les mecs subissent. Ce qui fait que du coup, alors je m'avance un peu, mais dans le relationnel en fait, effectivement, où les personnages se posent la question entre la loi et la justice, si tu veux, bah, tu comprends le positionnement du personnage, notamment dans la scène finale, en l'occurrence de ce film-là, quoi, de Wind River, tu vois. Et en fait, oui, ça incarne totalement le truc. C'est-à-dire que il y a, moi, j'ai envie de dire, j'aurais peut-être des problèmes avec le Taylor Sheridan, en tout cas sur ce film-là, scénique. C'est-à-dire en termes de mise en scène, en termes de réalisateur, mais pas du tout en termes d'incarnation. C'est la façon dont il dirige les comédiens. Et c'est aussi un truc qu'il faut dire, quoi. C'est-à-dire que là, on se retrouve quand même avec Jeremy Renner et Elisabeth Olsen. Je veux dire, la fois où on les a vus avant, c'était dans un Avengers ou un truc comme ça, quoi. Et clairement, je veux dire, bon, ils n'ont pas les mêmes rôles à jouer, hein, mais ils n'ont pas la même implication non plus, hein. Ça, c'est un truc qui est évident aussi. Donc, quand tu regardes ce film-là, tu sens qu'ils sont habités par le sujet, quoi.
Mais moi, j'aime bien Jeremy Renner. J'ai toujours trouvé j'aime beaucoup l'appeler presque. Parce qu'il a presque remplacé Tom Cruise sur Mission Impossible 4, puis en fait non. Il a presque remplacé Jason Bourne, mais en fait non. Il est presque devenu un Avengers avec son film, mais en fait non. Donc c'est Jean-Michel Presque en fait. Et Jean-Michel Presque, moi je trouve que c'est son meilleur rôle. Il est superbe dans ce rôle-là.
Écoute, Jeremy Renner, évidemment, comme tout le monde, je l'ai remarqué, fortement remarqué dans Hurt Locker. Voilà, dans Des Mineurs, merci Alain Mercier, où Catherine Bigelow lui a fait une démo de héros d'action absolument dantesque, quoi. C'est-à-dire que et dans un film qui a un drame en plus, si tu veux. Et là-dessus, il a un truc en fait en plus, ce gars, c'est-à-dire qui, moi, je trouve malheureusement n'est pas exploité, peut-être un petit peu dans Avengers Endgame quand il y a le truc de vengeance, on va dire, si tu veux, autour du personnage, quoi. Mais il a un truc en fait de, il paye pas de mine. Mais tu sens qu'il ne faut pas le faire chier. Et c'est-à-dire que dans Des Mineurs, c'est évident. Là, il lui est arrivé un accident en début d'année complètement... Enfin, n'importe qui, il serait passé, quoi. Apparemment, lui, il a survécu et apparemment, il a le moral.
En un seul morceau, a priori.
En un seul morceau, il a le moral. Il a le moral, apparemment. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il renvoie. Donc voilà, tu te dis, bon, ce mec, il a quelque chose. Alors qu'en fait, bon, quand tu le regardes physiquement, encore une fois... Il est assez commun.
Il a un truc.
Il est pas très grand. Il est il a un truc. Il y a un truc qui machin. Il y a un truc qui fonctionne chez lui. Et du coup, je sais pas si Wind River c'est son meilleur rôle en fait, ce personnage-là. En tout cas, c'est sûr qu'il l'incarne. Il y a quelques films où moi je me rappelais de lui dans 28 semaines plus tard, ce genre de choses. En fait, encore une fois, c'est à une époque, j'ai envie de dire, en dehors de Marvel, effectivement, il avait alors peut-être pas dans le Bourne. pas terrible là, qu'il a fait là.
Bourne Legacy.
Bourne Legacy, ouais. C'est ça en français, non? C'est
Jason
pas Bourne.
Bourne l'héritage. C'est le seul où il y a Jason Bourne dans le titre, dans lequel il y a pas Jason Bourne.
Non, dans lequel il y a déjà pas Jason Bourne, voilà. Et en fait, tu sens que c'était pas, enfin, c'était pas terrible. En gros, tu sais pas exactement ce qu'il voulait faire avec ce personnage-là et cette franchise, tu vois, à ce moment-là, quoi. Mais tu sentais qu'il fallait continuer parce que c'est des succès, quoi.
Moi, j'aime bien Sicario et j'aime bien Jason Bourne l'héritage, mais bon, je vais pas le dire trop fort, visiblement. Vas-y, continue.
Non, mais c'est pour dire, enfin, en tout cas, tu peux pas, enfin, moi, je le trouve plus générique là-dedans. Pour moi, il est égal à lui-même comme dans Avengers, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il est un peu générique là-dedans, contrairement encore une fois au film qu'on cite, quoi, tu vois. Donc oui, il y a de ça, quoi.
Je trouve qu'il a une qualité que je rapprocherais, et d'ailleurs Taylor Sheridan visiblement est d'accord avec moi, que je rapprocherais un peu de Chris Pine. Ce sont des gens qu'on a essayé de mettre dans des premiers rôles de jeunes premiers, etc., alors qu'ils ont des gueules, ils ont une présence, ils ont une aura à jouer des cols bleus. Moi, je trouve que dans Comancheria, Chris Pine, il est mortel. Je trouve que dans ce rôle-là, Jeremy Renner, il est mortel. Je trouve que c'est des gens.
Ouais, Chris Pine, c'est plus la gueule, hein, parce que c'est quand même un fils d'eux, quoi. Donc.
Oui, mais il a la gueule d'eux. Et d'ailleurs, à la base, Taylor Sheridan voulait deux acteurs sur Wind River.
Il avait deux choix.
Il avait dans le rôle principal, il voulait Jeremy Renner, et dans le rôle principal féminin, il voulait Elizabeth Olsen. Donc déjà, il a eu du bol, mais il a eu vraiment du bol. C'est-à-dire qu'en fait, Jeremy Renner était déjà en train de tourner un truc, je sais plus quoi. Donc il lui a dit non, en fait. Et il a proposé le rôle à Chris Pine.
Ouais, il était en train de tourner Premier Contact.
Premier Contact, c'est ça. Et donc,
avec Denis Villeneuve.
Avec Denis Villeneuve. On fait que des trucs qui...
c'est des boucles qui se fout, ouais.
C'est incroyable.
Et on a un peu trop parlé de Denis Villeneuve dans un podcast qui n'est pas sur Denis Villeneuve, en l'occurrence.
Et donc, effectivement, avec les questions de financement, parce que c'est un film avec un tout petit budget, on est sur du 11 millions, hein, donc ça vole pas très haut. Le temps qu'il réussisse à tout boucler... Bah en fait, Chris Pine n'était plus disponible, mais Jeremy Renner était de nouveau disponible, donc en fait, il a eu ses deux premiers choix.
Alors, avançons un peu sur le encore une fois, sur le scénario, sur la façon de comment dire...
Juste un truc avant, ouais, que tu avances. Si vous n'avez pas vu le Wind River, des fois qu'on spoil, appuyez sur pause, allez le voir, revenez.
Ah, on est obligé de spoiler parce qu'il y a quand même une scène centrale, en fait, qui est hyper importante, pas seulement parce que c'est une scène d'action, à proprement parler, hein, c'est pas forcément la raison, quoi, même si, en fait, il y a des éléments intéressants là-dedans à discuter, mais aussi parce qu'en fait, en gros, le nœud, encore une fois, du thriller, le nœud du pourquoi, du comment, en fait, on te raconte cette histoire à ce moment-là, ce qui s'est passé et ce que ça, la façon dont ça renvoie aux personnages principaux, en fait, est très, comment dire, et encore une fois, est distillé d'une manière qui est, moi, je trouve assez intéressante. Encore une fois, c'est pas un petit malin, Taylor Sheridan, c'est un mec, en fait, si tu veux, qui distille ces choses au fur et à mesure quand on avance dans son cinéma, quoi. C'était le cas dans Sicario, c'était le cas dans Comancheria. Et là, en fait, c'est encore le cas parce que, donc, en gros, il y a le questionnement thématique, c'est-à-dire sur on en a parlé au début, sur les statistiques, sur le fait que les victimes, en fait, là en l'occurrence de viol ou de meurtre dans les réserves amérindiennes, en fait, ne sont pas signalées, quoi, ne sont pas traitées. Il y a souvent des non-lieux, en fait, en gros, sur les gens qui sont accusés de ça, quoi. Et en fait, le truc, c'est que c'est ce dont le film parle, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une personne dont de toute évidence qui a été violée, ça devrait être classé comme un meurtre. C'est une conversation dans le film avec le médecin légiste, et le médecin légiste se dit « je ne peux pas ». Je ne peux pas la classer en fait en tant que telle, elle est morte de froid. Et en fait, du coup, ça, avec cette simple information, tu comprends les enjeux en fait qui sont liés déjà d'un point de vue géopolitique, mais aussi d'un point de vue thématique dans le film, quoi. Et du coup, t'en arrives un peu plus tard à cette enquête pour savoir ce qui s'est exactement passé. Le fait que, elle ait une passion pour la raison pour laquelle elle comprend pas justement pourquoi ça devrait être comme ça, quoi. Puisqu'elle débarque en fait dans ce milieu-là, quoi. Eux ont l'habitude, enfin tous les corps de métier, toute la police, le médecin légiste, ça, ils ont tous l'habitude de ça, quoi. Et quand on arrive en fait à cette scène où alors ils vont enquêter sur, alors attends, qu'on recale un petit peu le truc. Sur le mec, c'est-à-dire le petit ami de la nana qui est morte, et ce type travaille pour
une société de forage.
Voilà, c'est ça, une société de forage perdue dans ce que moi j'appelle le no man's land, en fait, dans ce no man's land. Et quand il se retrouve là-bas, tu te retrouves avec une scène qui est extrêmement intéressante parce que déjà t'as un fort shadowing en fait pour la scène qui va arriver, c'est-à-dire que les mecs c'est des mecs surarmés. Ils ressemblent plus à des mercenaires qu'à des foreurs, quoi. Et en fait, en gros, ils les emmènent à l'endroit pour discuter avec le petit ami en question, quoi. Et t'as une scène de tension qui, moi, je trouve assez bien faite. En gros, où t'as un moment donné, t'as un des flics qui panique et qui se sent encerclé par les gars.
Qui lui dit, mais pourquoi vous m'encerclez ?
Voilà. Et d'un seul coup, t'as toute une scène, en fait, qui doit être comment tu dis, alors je vais faire un anglicisme, pas désamorcer, j'allais dire diffuse, enfin diffuser,
désamorcer, donc
voilà, désamorcer, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que la scène est désamorcée, et surtout il y a un truc qui est parce que quand tu écris un film et que tu fais une scène comme ça, en fait ça ne peut pas déboucher sur rien.
Oui, et voilà, et je te dirais même que moi il y a un truc, en fait c'est la scène que tu décris, je trouve que c'est une scène très intéressante, mais ce qui pour moi la rend vraiment mortelle. Jusque là je trouve que c'est une scène qui est bien faite, etc. C'est en fait donc ce flic panique, mais en fait il panique pas, il sort son flingue, il dit pourquoi vous m'encerclez, et c'est Elisabeth Olsen qui fait redescendre la tension, puisqu'elle dit écoutez, en fait la seule personne qui a une juridiction,
il y a Graham Greene aussi qui essaye et tout, mais ouais.
Mais Graham Greene, donc c'est le chef de la police de la réserve indienne, ouais. qui n'a pas de juridiction à cet endroit-là, puisque ouais, c'est pas considéré comme la réserve indienne, et donc c'est la seule à désamorcer. Et là où moi il y a cette petite phrase en plus qui change totalement la dynamique de la scène et qui me dit c'est pas fini, c'est quand le flic regarde Elisabeth Olsen et lui fait vous avez pas vu ce qu'il vous ne vous rendez pas compte.
Vous n'êtes pas rendu compte que j'ai été encerclé, en fait. Ouais. Et qu'ils l'ont fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas fou, je suis pas devenu fou. Mais le truc, c'est que, bon, quand tu vois une scène comme ça arriver, elle est censée dire quelque chose. Et en fait, effectivement, je veux dire, c'est juste une amorce à ce qui va se passer derrière. Et il y a un point intéressant de narration. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans la zone, en fait, où le petit ami est censé être chez lui dans une caravane, enfin une espèce de caravane comme ça.
Mobilhome.
Ouais, monté comme sur pièce, quoi. Et en fait, elle frappe à la porte, elle attend. Et là, donc, t'as le personnage du petit ami qui se lève de son lit, qui va pour ouvrir la porte. C'est John Bertal qui joue le rôle, quoi. C'est sa seule scène, hein, du film, d'ailleurs. Et en fait, quand il ouvre en fait la porte, c'est la victime.
Nathalie.
Voilà, qui répond. Enfin, qui est à la porte, en fait.
Joué par Kelsey Habile, qui joue dans Yellowstone un des rôles principaux.
Voilà. Ce qui fait que tu comprends que c'est un flashback, ok, et que tu comprends exactement, c'est-à-dire qu'il te dévoile littéralement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire il y a plus, on n'est plus dans l'enquête, on n'est plus dans le, il y a pas de wooden it, il y a pas de, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un truc, et c'est très intéressant la façon de présenter ça, parce que à mon sens, encore une fois, on se retrouve dans cette espèce de logique où moi, un auteur comme Taylor Sheridan ne cherche pas en fait à mener le spectateur par le bout du nez. Il veut juste lui dire les choses, en fait, telles qu'elles sont. Donc, il y a un côté de no bullshit, en fait, qui est vachement intéressant. Bon, tu te retrouves avec une scène de viol, une scène où ils attaquent le personnage de John Bertal. Enfin, bref, on comprend exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on revient, du coup, donc je spoil, hein, à la scène, en fait, où, effectivement, une fois que ce flashback est passé, bah, elle est à la porte, elle est en train de frapper. Et là, en fait, on comprend qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui va pas. Le personnage de Graham Greene, en fait, réagit tout de suite. Il fait sortir de la porte, quoi. Elle se fait flinguer, en fait, à travers la porte. Alors, elle survit, en l'occurrence. Mais ça donne lieu à une espèce de grosse scène d'action qui est en vrai un Mexican stand-off, en fait, dissimulé, quoi. Alors, moi, je trouve que c'est là où on voit les limites, entre guillemets, en tout cas sur ce film-là, de réalisateur de Taylor Sheridan, parce que d'un seul coup, ça devient un peu confus. C'est-à-dire, ça devient un peu chaotique. Et je pense pas forcément pour les bonnes raisons, c'est-à-dire ça aurait mérité d'être un peu plus travaillé d'un point de vue, voire storyboardé, pour qu'on comprenne exactement en fait ce qui se passe là-dedans. Parce que déjà, il y a une confusion entre les personnages qui sont dans la scène du présent et les personnages qui sont dans la scène du flashback, parce que il veut pas forcément totalement te dévoiler le truc, tu vois. C'est-à-dire c'est un peu confus. Et il y a un autre truc, c'est que alors la scène en soi elle est efficace, c'est-à-dire que d'un seul coup t'es pris par l'action, t'es pris par tout ce qui se passe, etc., etc. Je vais pas en dévoiler forcément plus là-dedans.
On a déjà dévoilé beaucoup.
Non, mais beaucoup, oui. Mais le truc, par contre, en fait, c'est que moi ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais c'est quoi le plan des mecs ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on t'explique pas les raisons du meurtre, en fait, une fois qu'on t'explique pas les raisons du viol, en fait, qui sont juste en fait basiquement liées à la thématique du film, très bien, il y a pas de problème. Mais là, je me dis, en fait, c'est qui ces gens-là ? C'est des foreurs qui sont surarmés.
Ce sont pas des foreurs, c'est le service de sécurité, donc ce sont des mercenaires.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et en fait, le truc, c'est que c'était quoi leur plan ? Buter tout le monde ?
Buter tout le monde et.
Ouais, mais
et
comment tu les planques ? Enfin, tu vois, c'est quand même bizarre comme.
Ils sont
comme...
pas très efficaces, puisque je te rappelle qu'effectivement, ouais, bah, ils ont planqué le. Bon, de toute façon, en même temps, si vous êtes resté, c'est que vous acceptez les spoilers.
Ouais.
Ils ont déjà planqué le personnage de Matt, hein, qu'on a retrouvé cuit sur neige. mort et enterré, mais leur plan c'était ça, c'était de se débarrasser de quiconque pouvait, bon, en gros les emmener en justice quoi.
Et moi disons que le seul truc qui me manque un petit peu à ce moment-là, c'est-à-dire pour pas faire passer les personnages pour des mecs un petit peu bas du front, tu vois, c'était d'expliquer qu'ils comptaient sur le fait que de toute façon personne n'en a rien à foutre en fait dans cette partie des États-Unis. Tu vois,
pour moi, c'est
que ce soit un petit peu plus évident.
Pour moi, c'est tellement dit implicitement dans tout le film.
Ouais, ouais.
Effectivement, que t'as avant cette scène-là, ils se rendent dans la réserve indienne et ils vont voir le frère de Nathalie, donc le frère de la victime. T'as Elisabeth Olsen qui dit « Vous croyez pas qu'on aurait besoin d'appeler des renforts, là ?» Et t'as le personnage de Graham Greene qui lui répond « T'es pas sur le territoire des renforts ici, t'es sur le territoire du démerde-toi toute seule. »
C'est chacun pour soi. Voilà.
Et t'as plusieurs petits appels comme ça, qui te disent clairement, de la même façon, pourquoi Elisabeth Olsen veut absolument que ce soit tourné comme, que ce soit rectifié comme un meurtre, c'est que si c'est un viol, en fait, du coup, ça tombe sur la juridiction du chef de la police de la réserve. Sauf que le mec, il a 6 hommes.
Ouais.
Et que si ça tombe sous la juridiction du FBI, ils peuvent envoyer des moyens illimités. Mmh. Et elle veut aider. C'est un personnage.
Oui, bien sûr.
C'est un personnage innocent mais pas naïf, le personnage d'Elizabeth Olsen.
Elle a, moi, je trouve. Alors, c'est un meilleur personnage, je trouve, que Emily Blunt dans Sicario. Mais elle a des petits traits de caractère un peu similaires où je trouve que, en fait, si tu veux, alors moi, c'est plus problématique, je trouve, dans Sicario parce que, en fait, ils en font une espèce d'oie blanche qui est pas réaliste, à mon sens, en fait, dans ce sujet-là, quoi. Là, on va dire que, en fait, ça fonctionne mieux. Parce que je vais dire qu'en fait elle a un peu des caractéristiques similaires, c'est-à-dire que même dans l'action elle se révèle de la même manière, c'est-à-dire il y a une scène où en fait où elle va abattre un mec dans un couloir et en fait si tu veux c'est une scène pareille où elle est pas forcément automatiquement, elle est préparée puisqu'elle a un entraînement autour de ça quoi, mais en fait elle est pas forcément prête à le faire sur le moment-là et elle le fait dans l'instinct, tu vois.
Et c'est pareil. Il y a une définition à ce moment-là de personnage par l'action, je trouve, que je trouve très intéressante. C'est quand elle finit par trouver la personne qui lui tire dessus et qu'elle riposte, elle riposte en vidant son chargeur. Je pense que c'est plutôt réaliste, c'est probablement comme ça que font les agents du FBI, mais je trouve que dans le cinéma où on est habitué à one shot, one kill, hein, je tire une fois, je tue quelqu'un, je trouve qu'avoir ce personnage qui vide son chargeur sans oser avancer et qui change de chargeur pour être sûr que la personne est morte, t'as à la fois ce personnage qui est entraîné mais qui se retrouve dans la réalité d'une situation qu'elle avait pas prévue.
En tout cas, voilà, donc il y a tout ce truc et on en arrive en fait à ce nœud, donc du coup, en fait, qui est dans la thématique du film, c'est-à-dire c'est que en fait, le personnage du violeur s'échappe, et là, en fait, Jeremy Renner lui dit, en gros, si je vais le chercher, c'est mon travail de traquer les prédateurs, tu vois.
Il reviendra pas.
Et donc tu te retrouves en fait avec toute cette logique, effectivement, de ce que tu disais, qui est symptomatique du cinéma de Taylor Sheridan. En fait, l'écriture de Taylor Sheridan, c'est la distinction entre la loi et la justice, quoi. Et la façon en fait dont eux vont l'appliquer ou la faire appliquer, qui plus est, dans un encore une fois, dans un truc où la justice, la loi n'existe quasiment pas, en fait.
Je trouve qu'en plus...
Ils sont pas traités. Enfin, si la loi est beaucoup trop présente et la justice pas assez, quoi.
Et ce que je trouve en plus intéressant, c'est que la façon dont ça se déroule ne fait que renforcer Nathalie. Nathalie n'est pas qu'une victime. C'est un personnage. Alors qu'elle a une scène, elle traverse tout le film. Elle est toujours là, tu l'oublies jamais, notamment effectivement au fur et à mesure où va se dérouler l'intrigue de Jeremy Renner, qui te permet de comprendre pourquoi
son relationnel avec elle.
Mais aussi dans des petites choses, t'as Gil Birmingham, donc qui est un acteur indien, amérindien pardon, qui va jouer le père, qui est absolument magnifique dans le rôle. Il est pareil, il a une scène, il fait exister sa fille à travers les scènes qu'il a, qui sont parfois tragiques, parfois tragicomiques, parfois comiques, parce que c'est malgré le côté désespéré du film, il y a des pointes de vie tout le temps. Enfin moi c'est vraiment, j'adore l'écriture de Sheridan parce que c'est quelqu'un qui est capable à la fois d'être no bullshit et en même temps il a un axiome d'écriture qui est très simple, qu'il utilise toujours, qu'il dit toujours, c'est histoire simple, personnage complexe. C'est sa façon de faire et il y arrive, parce que c'est bien de le dire, hein, mais c'est pas facile à faire en fait. Hein. Et réussir à écrire des personnages qui soient multidimensionnels dès le papier, chapeau hein.
Mais surtout ça, et puis en fait avoir le... Alors ça marche hein, dans Wind River hein, clairement, mais par exemple pour moi le film où ça marche le mieux, et bon... Le truc, c'est que les gens ne seront pas forcément d'accord, mais c'est Sicario 2. Parce que, en fait, en gros, tu te retrouves avec un type qui joue aussi avec ses zones de gris, en fait, qui est Solima. Donc, en fait, les deux s'associent Et du coup, ça fait vraiment exploser le truc, quoi. Là, là, on va dire que pour moi, j'ai pas encore vu donc ce film d'après, quoi. J'ai même pas vraiment, j'ai pas regardé Yellowstone non plus, ni Tulsa King d'ailleurs. Mais le truc, c'est que, comment dire, pour moi, c'est encore pour l'instant à mes yeux, mais peut-être que ça il confirmera l'inverse, quoi. C'est encore surtout un scénariste avant d'être un réalisateur, en tout cas pour moi.
Je suis assez d'accord. En ce qui me concerne, moi, ça me dérange pas, puisque scénariste, c'est-à-dire que mon métier pendant plusieurs années, forcément, ce sont des gens que j'estime beaucoup. Et vraiment, j'adore son écriture. Et en plus, au final, il a eu une carrière qui est montée très vite, hein, avec ses trois films qui sont sortis en 2015, 2016, 2017. Donc, c'est pas tout le monde qui sort trois films en trois ans, quoi. Et en fait, depuis, c'est devenu essentiellement un showrunner, donc qui a plus un taf de scénariste/slash producteur. Il a entièrement réalisé la première saison de Yellowstone, entièrement écrite et entièrement réalisé la première saison. Et ensuite, il a quasiment, il a réalisé, parce que il a pas que Tulsa King, hein, il a pas que Yellowstone.
Non, bien sûr.
Il fait aussi une série qui s'appelle Mayor of Kingstown, qui est déjà avec Jeremy Renner. Il fait des spin-offs à Yellowstone. Il en a fait un qui s'appelle 1883 avec Sam Elliott. Il vient d'en faire un autre qui s'appelle 1923
avec Harrison Ford.
Et moi, c'est le seul problème que j'ai avec Taylor Sheridan aujourd'hui. Bah, je viens de le décrire, en fait.
C'est qu'il travaille trop, quoi.
En fait trop. Il en fait trop, et forcément, il y a un moment où, aussi talentueux soit-il, pour moi, la créativité, c'est entre guillemets, c'est un jus. Et
mais il a une équipe.
Jus,
hein.
faut de temps en temps, tu le laisses reposer aussi.
Mais il a une équipe aussi. Hein. Je crois que, par exemple, chez Fop, sur ce film-là, il réalise des épisodes de Yellowstone. Enfin, il y a des trucs comme ça. Donc,
bien sûr qu'il a. Bah, forcément, il est showrunner. Mais tu vois, quand tu vois qu'il a écrit l'intégralité de la première saison de Yellowstone, il a écrit toutes les saisons de Yellowstone quasiment tout seul, sauf la deuxième. Tulsa King, je crois qu'il a quasiment rien écrit.
Ouais.
C'est lui qui a.
Apparemment, il était sur les. Enfin, Yannick en part, il a fait une émission. Je sais pas si on l'a déjà diffusée ou. Non, je pense qu'on l'aura déjà diffusée en l'occurrence. Là, ça me regarde. On enregistre un petit peu en avance des fois. Et je crois qu'il en parle un peu aussi parce que c'est surtout Stallone qui a repris en fait le truc, quoi, qu'il a taillé à peu près autour de lui, quoi. Bon, on parle aussi d'une personnalité forte là, donc en l'occurrence. Si
tu veux. Donc du coup, bah, c'est vrai que quand tu vas regarder ce qu'il a fait après, donc Ceux qui veulent ma mort, c'est un chouette petit film, Ceux qui veulent ma mort. Mais je trouve que c'est moins bien que Wind River. C'est probablement de toute l'œuvre de Taylor Sheridan celui que j'aime le moins, même s'il y en a un que j'aime encore moins, qui est Sans aucun remords, au moins j'ai pas accroché.
Le film de Solima, ouais. Ouais, mais ça c'est une commande, c'est encore autre chose. Enfin, ça s'inscrit dans un truc à Tom Clancy. Je veux dire, moi je reconnais Solima là-dedans, Taylor Sheridan beaucoup moins quand même.
C'est-à-dire que voilà, moi quand on m'avait dit, tu vois le duo de Sicario 2, il revient dans une adaptation d'un bouquin de bourrin, je me suis dit.
Oui, puis c'est pas du tout une adaptation du bouquin, en fait, à la fin, quasiment.
Ils ont tout enlevé. Le personnage de la pute junkie est devenu de la prostituée qui abuse de la drogue, est devenu une jolie petite gentille femme au foyer. Ouais. Enfin, tu reconnais pas du tout l'histoire.
Non, mais c'est pas l'adaptation directe de Sans aucun remords.
Ceux qui veulent ma mort.
L'autre mort, c'était pas le titre d'ailleurs du bouquin, je crois, si.
Sans aucun remords, si.
En français.
Sans aucun remords, c'est la même chose. Et effectivement, quand tu vois Ceux qui veulent ma mort, donc qui est son essai d'après en tant que cinéaste, globalement, il n'y a pas eu d'énormes progrès, je crois, en termes de mise en scène. Tu es plus sensible à la mise en scène que moi, je le suis, un peu moins que toi. Ce que j'aime chez Sheridan, c'est justement sa plume. Et là, par contre, tu la retrouves.
Oh, clairement. En tout cas, c'est un film vraiment à voir. Moi je regrette un peu de pas l'avoir vu en salle parce que t'as quand même aussi des vistas assez incroyables hein, dans le film, c'est assez beau quoi. C'est sorti chez nous en Blu-ray, hein, en DVD, c'est chez Metro. Donc voilà quoi. Et c'est toi, tu nous as sorti le steelbook, voilà. Ah bah avec le Mexican stand-off inversé là dans
c'est-à-dire que derrière. Moi je l'ai vu en salle parce que chez Sheridan en fait j'ai eu de la chance, c'est que dès Sicario je me suis dit qu'il y a quelque chose chez ce mec-là qui me plaît beaucoup. J'arrive pas à identifier quoi, donc j'ai vu les trois films en salle, j'ai vu Yellowstone, j'achète depuis 5 ans les Blu-ray aux États-Unis parce que jusqu'à très récemment c'était totalement invisible en France de façon légale, et vu que j'aime bien faire les choses de façon légale, bah j'ai acheté mes Blu-ray en import Et voir ce film-là en salle, c'est à la fois très bien, mais c'est plus éprouvant qu'à la télé, hein, parce que justement, ces grandes vistas, la musique de Nick Cave, qui est elle aussi qui joue beaucoup, qui apporte beaucoup sur le côté ultimement triste, mortifère du film. Quand je suis sorti du film, je t'avoue que c'était pas. Je savais que je venais de voir un truc qui m'avait énormément plu, mais c'était pas un truc où je me disais, hey, tiens, j'allais faire la fête ce soir, quoi.
Non, c'est sûr. Bah, jamais vraiment avec Taylor Sheridan. Sauf peut-être avec Tulsa King. Je n'ai pas encore commencé à regarder. On recommande.
Ah mais alors tellement, jetez-vous sur tout ce que fait Taylor Sheridan. Pour moi, vous pouvez pas le regretter. Enfin, si vous, si tout ce dont on a parlé, si les thèmes dont on a parlé, la justice versus la liberté, la notion de territoire, la question de, aussi du western moderne, si tout ça, ce sont des thèmes qui vous intéressent, vous allez avoir vraiment un auteur qui est assez unique. Alors, toute proportion gardée de la même façon, mais pour moi, qui me rappelle un peu Shane Black. Pourquoi ? Pas dans l'écriture, ils ont une écriture totalement différenciée, mais dans le fait que malgré des réalisateurs différents, tu reconnais un film écrit par cette personne-là. Et ça, c'est assez unique.
Merci, monsieur Charpentier.
Merci, Stéphane.
Merci, Alain, merci à la technique. Hein ? Ouais, t'es essayé, déjà en train de sourire, il croit que je vais te dire des cochonneries là. Non. Merci, monsieur.
J'aime bien quand tu parles de champignons.
De champignons, non, on va pas la refaire à chaque fois. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à ceux qui nous soutiennent et qui typent en fait sur Tipeee et sur KissKissBankBank. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram. C'est vraiment la partie que je déteste faire, mais je la fais quand même. Voilà.
Pas autant que Yannick.
Voilà. Et non. Et on se retrouve quand même pour une prochaine, mais on n'a pas encore. C'est bon, on a épuisé pour l'instant. On va trouver d'autres sujets. À bientôt.
On va laisser reposer.
Salut.